Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bienvenue à tous. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, vous êtes en pleine forme, une forme olympique après deux longues semaines de vacances. Ça se voit.
Deux petites semaines, pas
deux longues semaines. Vous avez manqué beaucoup aux auditeurs. Hein, il y a eu beaucoup de messages sur Internet vous réclamant, mais je ne pouvais pas leur dire où vous étiez parce que je ne le savais pas.
Bon, d'accord. On en parlera en dehors de l'émission. Hein. Donc, on en parle en dehors de l'émission, sans témoin.
Il faudra surtout répondre aux auditeurs.
Je le ferai, c'est promis. Merci en tout cas pour vos messages et je suis donc ravie d'être avec vous. Le Cameroun serait-il en train de sombrer dans la dérive tribaliste? Depuis la tenue des élections présidentielles contestées d'octobre dernier, vidéos et audio appelant à la haine tribale circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, les déclarations des membres du gouvernement qui a fait un lien entre le climat politique marqué par l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et l'arrogance supposée des Juifs exterminés sous l'Allemagne nazie a suscité une vive polémique et une violente réaction de l'ambassade israélienne à Yaoundé. Les autorités camerounaises ont dû se fendre en excuses. La tension ethnique est-elle installée sur le terrain politique et a-t-elle débordé sur celui diplomatique? On en parlera au cours de cette émission. Autre sujet, c'est la Centrafrique. Le 8e accord de paix est-il enfin le bon? Dans le texte négocié par l'Union africaine et signé à Bangui, pouvoir et groupes armés s'engagent notamment à renoncer à tout recours à la force armée. Il est aussi prévu la formation d'un gouvernement dit inclusif. Sur la question des poursuites contre les auteurs de diverses exactions sur des civils, on sait que l'accord ne parle pas d'amnistie. La guerre sera-t-elle bientôt un mauvais souvenir pour les Centrafricains ou faut-il rester prudent quant à la fin des violences dans ce pays? Débat à suivre. Laurent Gbagbo, libre, mais l'ancien président ivoirien a quitté puis libéré sous condition cette semaine par la Cour pénale internationale, vit désormais en Belgique. Ses partisans qui souhaitaient le voir rentrer en Côte d'Ivoire et jouer un rôle peut-être dans la présidentielle de 2020 dénoncent les restrictions qui entourent sa libération. Laurent Gbagbo ne peut en effet sortir de sa municipalité de résidence sans l'autorisation de la Cour pénale internationale et des autorités belges. Il n'a pas non plus le droit de s'exprimer publiquement sur son dossier. Notre plateau avec vous, Francis Laloupo, avant les débats.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Yaoundé, Maître Akere Mouna, avocat, président du mouvement NAO, ancien candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Maître Akere Mouna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bangui en Centrafrique, Mathurin Momé, directeur de la publication du journal Le Confident, édité en Centrafrique. Mathurin Momé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Fiche de présentation de notre grand témoin Akere Mouna, une synthèse de votre très dense biographie, avocat de profession. Vous êtes titulaire d'une licence en relations internationales obtenue en 1975 à la School of International Service de l'Université de Washington DC, admis à la prestigieuse Society of Lincoln's Inn. Vous serez sollicité par le barreau anglais en 1978, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun de 1997 à 2002. Vous avez été de 2005 à 2014 le vice-président du Conseil d'administration de Transparency International. Rappelons que vous avez été en 2001 le fondateur de la représentation camerounaise de cette organisation. Nommé président du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption en 2014, vous avez occupé le poste de président de l'Union panafricaine des avocats de 2005 à 2014, membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine de 2008 à 2014. Vous avez par ailleurs présidé le groupe de contrôle de la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF, acteur politique. Vous êtes le leader du mouvement NAO. NAO en anglais, ce qui signifie maintenant en français. NAO donc créé en 2018. Et c'est avec ce label que vous êtes porté candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018, après avoir démissionné de la plupart de vos fonctions pour éviter tout conflit d'intérêts. À la veille de ce scrutin présidentiel, vous avez décidé de retirer votre candidature pour appeler à voter en faveur de Maurice Kamto, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Maurice Kamto, arrêté et placé en détention, on le sait, depuis le 28 janvier dernier. Akere Mouna, vous serez notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane, à Dakar.
Oui, Francis.
Et c'est moi.
Voilà, et nous allons commencer avec le Cameroun, qui à travers le ministre des Relations extérieures, Yves Lejeune Bela Mbela, a présenté les excuses de son gouvernement à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun suite aux propos controversés de Jean de Dieu Momo. Le ministre délégué à la justice a établi une relation entre l'histoire des Juifs sous l'Allemagne nazie en réagissant aux manifestations, la destruction des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin, l'arrestation et l'arrestation qui a suivi de l'opposant Maurice Kamto, qui est donc au cœur d'une polémique ethnique, le ministre étant de la même région que l'opposant. Maître Akeremouna, je rappelle, Francis le disait tout à l'heure, que vous êtes donc un allié politique de l'opposant Maurice Kamto. Quelle est l'analyse que vous faites de ce parallèle relevé par le ministre Momo en pleine tension ethnique dans votre pays?
Écoutez, pareil, je ne sais pas. Ceux d'entre nous qui sommes habitués à écouter le ministre Momo ne sont pas surpris. Le problème est que le contexte et ce qu'il a dit est quand même assez étonnant. Ça s'est passé sur le poste national. Avec des journalistes quand même de qualité, et apparemment c'était pas en live, alors je sais pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses que Momo dit que je ne prends pas au sérieux, donc je pense pas qu'il y a un besoin de s'attarder sur ça. C'est deux situations complètement différentes, parce que si on pousse l'analogie très loin, on va aboutir, n'est-ce pas, à des choses qui sont assez fâcheux et même surprenant. Donc, je ne prends pas ça au sérieux. Il a parlé comme il a souvent de parler, mais c'est pas qu'il est bâton, mais c'est tout.
Certains ont envie de faire mettre Akeremouna de dire que le vivre ensemble est en péril au Cameroun à la faveur de ces déclarations. Est-ce que, d'après vous, la prise de position jugée maladroite de Maître Momo s'est peut-être nourrie du contexte politique actuel, vous-même vous l'avez relevé, et surtout des tensions ethniques qui ont suivi la présidentielle sur les réseaux sociaux dans votre pays?
Écoutez, moi, je ne vais pas m'attarder sur le côté analogie, mais je veux dire ceci. Ce qui se passe au Cameroun, ça se passe partout. Chaque fois que n'est-ce pas, les politiques, n'est-ce pas, instrumentalisent des revendications socio-économiques, ça donne ce que ça donne. Hein? Donc, si vous êtes Bamiléké, vous êtes Kamto, si vous êtes anglophone, vous êtes Wakeremouna, si vous êtes Béti, vous êtes Oubilia. Et ça, c'est nourri par les politiciens eux-mêmes. Donc je pense que c'est le résultat de cela, et partout en Afrique. Chaque fois que les politiques tentent, n'est-ce pas, de se faire une place en instrumentalisant, n'est-ce pas, les ethnies, ou cette affinité tribale, ça donne ce que ça donne. Donc ça ne devrait surprendre personne. Le seul problème est que, par la suite, personne ne peut contrôler ce qu'on vit au Cameroun. Et ça, le danger.
Il faut peut-être rappeler précisément à Akeremouna les mots qui ont été prononcés par ce ministre, parce qu'on parle quand même d'un ministre de la République, hein, qui a déclaré ceci en Allemagne. Il y avait un peuple qui était très riche et qui avait tous les leviers économiques, c'était les Juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que les peuples allemands se sentaient un peu frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis ces populations-là dans des chambres à gaz. Il faut que les gens instruits comme M. Kamto puissent savoir où ils mènent leur peuple. Fin de citation. Alors je le disais, Maître Akeremouna, c'est un ministre de la République qui prononce ces paroles. Est-ce qu'il s'agit d'un simple dérapage verbal, comme vous le dites, ou d'une faute politique majeure?
Écoutez, cher ami ministre de la République, qu'on ne fait aucune connaissance ou aucune expertise, hein, surtout la façon dont on les nomme, donc je ne vais pas aller de ce côté-là. Le fait que le gouvernement a très vite... refuser, n'est-ce pas, de nous reconnaître comme un des leurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça a été fait comme un citoyen lambda, pas comme un membre du gouvernement. C'est ce qu'il faudrait dire.
Mais oui, le gouvernement qui s'est désolidarisé en indiquant que c'était des propos tenus à titre personnel, que c'était des propos qui n'engageaient aucunement le gouvernement.
Bon, mais justement, mais voilà, qui a engagé lui et son parti politique, c'est ce que j'ai pu comprendre.
Oui, c'est difficile quand même.
Non, mais donc que...
C'est difficile de distinguer les paroles d'un ministre de l'ensemble du gouvernement.
Avec le peuple, je ne sais pas comment on dit en français, oui. Aérienne, arienne, c'est ça? C'était une histoire de race.
La race arienne, oui.
Donc, justement, donc, ça prenait les Noirs et tous les autres. Donc, je pense que c'est vraiment très, très mal vu, très mal vu. Il est vrai qu'on ne parle que de cas des Juifs, mais je pense que la nouvelle est très mal tombée. Et puis, en plus, aujourd'hui, c'est peut-être gratifiant pour certains. Les Babylites eux-mêmes avaient pensé au peuple juif comme étant, n'est-ce pas, des Juifs camerounais, vraiment. Mm. Bah, je ne peux pas tirer cette analogie-là. Je pense que le problème est simple. Ces tentatives qu'on tente, n'est-ce pas, d'instrumentaliser, n'est-ce pas, les différences ethniques à des fins politiques.
Mais Maître Kérémouna, comment rattrape-t-on ce genre de dérapage, si c'en est un?
Oh, mais c'est parce qu'il faudrait que, déjà en amont, que ce soit interdit. Parce qu'en même temps que Momo dit cela, il y a une radio qui appelait carrément la haine contre les Américains. On n'a rien dit. Mm. Ah, on n'a rien dit. Moi, je suis anglophone et pratiquement maintenant... quand vous êtes anglophone, c'est équivalent. C'est pas un tribu, certes, mais c'est équivalent de ces historiques. Donc ce sont ces amalgames-là qui sont, je dois dire, encouragés par l'État lui-même, qui finissent, n'est-ce pas, par nous faire mal. C'est cela. C'est cette faiblesse politique qu'on est content de rattraper, n'est-ce pas, en créant des zones ethniques un peu partout. Et c'est très dangereux. Je pense qu'au Cameroun, maintenant, on est sur une pente glissante, et je ne sais pas où ça va nous amener.
Sans vouloir remuer, vraiment, c'est pas du tout mon intention, Maître Kérémouna, sans vouloir remuer cette tension ethnique, on sait que des excuses donc ont été présentées par le gouvernement camerounais à l'ambassade d'Israël. On pourrait aussi s'attendre à ce que des excuses soient présentées à la catégorie de la population qui s'est sentie visée par ces propos, par les propos de ce ministre, non?
Même plus par la menace qui est englobée dans cette analogie. On dirait qu'il y a une menace, si vous continuez, donc vous aurez le même sort. Donc je pense que c'est très grave.
Oui.
Et moi, je pense que c'est même très grave pour le peuple d'Amérique, que ça l'est pour les Juifs.
Juste à préciser, Maître Kérémouna, je le disais en début d'émission, le Maître Momo qui a tenu ses propos est lui-même originaire de l'ethnie, voilà dont il parlait.
Oui.
Mais c'est vrai, mais écoute, Maître Momo a été nommé ministre par les autres, entre guillemets, donc je pense que... on dit en anglais, he who plays the pipe up, name the tune, celui qui finance le musicien choisit la chanson. Donc je pense que c'est un peu cela. On ne devrait pas être surpris.
L'affaire inquiète quand même beaucoup dans le pays, Maître Kérémouna, parce que je vais juste prendre l'exemple de ce groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, qui a exprimé dans un récent communiqué ses vives préoccupations face à la dégradation, dit ce communiqué, du climat social. Cette organisation s'inquiète des dérives observées ces derniers jours dans les médias et réseaux sociaux qui prennent la forme d'appels incessants à opposer les uns aux autres. Est-ce que vous pensez, vous, Maître Kérémouna, qu'il existe réellement aujourd'hui au Cameroun des menaces d'affrontements intercommunautaires, et quels sont les facteurs qui ont amené à l'instauration de ce climat?
Écoutez, c'est un problème de gouvernance. Je dis que tout gouvernement faible, n'est-ce pas, doit trouver des choses, n'est-ce pas, qui vont nous amener à parler d'autre chose. Et moi, anglophone de mon état, j'ai quand même un peu surpris qu'on est dans un pays qui est complètement déchiré, n'est-ce pas, par une guerre. On en est à plus de 500 000 personnes déplacées internes. On est à presque 50 000 réfugiés, n'est-ce pas, au Nigeria. On est à plus de 100 villages brûlés. On est à presque 3 ans sans école dans le Sud-Ouest. Et plein de filles qui tombent enceintes de bas âge. Et on en est à s'officier, n'est-ce pas, les déclarations d'un certain ministre Momo. Moi, vraiment, ce n'est pas ça qui m'interpelle aujourd'hui. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, la situation très grave dans le Nord-Ouest et sur lequel, n'est-ce pas, des gens sont arrêtés. Et où je vous parle, là, il y a un procès qui avait hier, n'est-ce pas, il y a deux combats militaires. Vous avez 12 personnes qui sont tous anglophones, jugées devant une instance qui ne parle que français. Ça, ce sont des problèmes réels. Et en bien sur cela, c'est ce qui peut mener à cette situation, bien sûr, n'est-ce pas, battant sur le principe des ennemis de mes amis sont mes ennemis. Bon, écoutez, ça peut donner à n'importe quoi, et je suis d'accord avec vous. On est sur une plante très glissante, et j'ai vraiment peur pour mon pays.
D'accord. On vous entend, Maître Akeremouna, voilà, la conclusion qu'on tire, c'est que le vivre ensemble est véritablement en panne au Cameroun, il est en péril. Vous semblez dire même qu'il y a dans la crise ethnique, dans la crise régionale ou anglophone, une crise ethnique. Comment peut-on réussir aujourd'hui à sortir de cette pente dangereuse dans laquelle se trouve le Cameroun?
C'est un problème de gouvernance, tout simplement. C'est la faillite de notre système de gouvernance qui pousse les gens, n'est-ce pas, à ce que nous avons. Vous pouvez dire, non, ça aussi doit être un problème dans le contexte camerounais. Et vous mettez le défi, si vous voyez un francophone, demandez-lui de vous citer quand il dit dans la zone anglophone. Il ne pourra pas. Parce qu'au Cameroun, les gens vont dire Boulou, Bamileke, Bassa, Douala, il dira anglophone. Comme c'est une ethnie. Donc dans le contexte camerounais, les gens ont tendance à considérer les anglophones, n'est-ce pas, comme étant introduits d'ailleurs. Ou de besoins, ils vont dire anglo-bami.
Mais justement, là, c'est un diagnostic, Maître Akere. Comment résoudre la situation aujourd'hui? Vous avez relevé qu'il y a une crise ethnique. Il y a aussi eu la crise anglophone ou régionale. Mais comment est-ce qu'on peut résoudre toutes ces crises aujourd'hui pour épargner le Cameroun d'une situation encore plus grave, peut-être de conflits intercommunautaires ou inter-ethniques?
Mais là où on est parti, il faut absolument qu'il y ait un dialogue national pour mettre inclusif, pour remettre, n'est-ce pas, pour faire un reset, pour remettre, n'est-ce pas, les compteurs à zéro. On a eu un semblant de 187, mais là, il faut absolument qu'on puisse s'asseoir et repenser la chose.
C'est urgent. Là, on est parti. C'est urgent.
C'est urgent, vraiment. Parce que là, on est parti. Si quelqu'un vous dit que de là où on est, on peut s'asseoir en légiférant ou en parlant ou bien par l'oppression, régler le problème, ce n'est plus possible. Il faut absolument qu'on puisse s'asseoir, repenser la République, repenser la forme de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Revoir les textes, revoir comment les élections devront se passer dans ce contexte. Il y a beaucoup de choses à revoir. Tant qu'on ne le fait pas,
Mais comment les textes peuvent-ils amener les gens à changer leur manière de penser et leur état d'esprit par rapport au regard qu'ils ont sur leurs compatriotes d'une ethnie différente? Est-ce que les textes peuvent arriver à résoudre ce...
Les textes ne peuvent pas, c'est ce que l'erreur de ce gouvernement, il pense que par les textes, on peut dire les problèmes, par l'élection, on peut dire les problèmes. C'est impossible. Tant que les gens ne parlent pas, ne conviennent pas de quelque chose qui est neutralisé dans les textes, on ne peut pas avancer. On peut s'asseoir et légiférer, penser que bon, ben, écoute, faut qu'il y a la loi, on fait un truc comme ça. C'est pas possible. Tant que les gens ne s'asseyent pas, se parlent, trouver un autre cadre de vivre ensemble, et légiférer ensuite jusque les Camerounais ont comme aspiration, tant qu'on ne le fait pas, on n'ira nulle part.
Francis?
Oui, il nous reste très peu de temps avant la pause. On va peut-être marquer la pause dès maintenant et ensuite écouter notre confrère depuis Bangui, Mathurin Momé, qui a suivi cette première partie de l'émission. Il va nous apporter son commentaire. Nous allons certainement évoquer ensuite également l'arrestation et l'incarcération, en tout cas le placement en détention de Maurice Kamto, ancien candidat à la présidentielle et pour qui notre grand témoin Akeremouna avait appelé à voter en octobre dernier lors de la présidentielle. Ne partez pas, on se retrouve juste après la pause.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Suite au débat BBC Afrique en duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité dans cette édition depuis Yaoundé au téléphone, Maître Akeremouna, président du mouvement NAO, ancien candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Notre confrère invité depuis Bangui, Mathurin Momé au téléphone, directeur de la publication du journal Le Confident, édité en Centrafrique. Un commentaire général sur cette situation, cette crainte pour le vivre ensemble, disait Liliane au Cameroun, Mathurin Momé.
Oui, je suis là.
On vous écoute.
La crainte oui.
Les menaces qui pèsent sur le vivre ensemble.
S'il vous plaît. La ligne.
Quel est votre commentaire général sur ce que vous avez entendu sur ces menaces qui pèsent sur le vivre ensemble au Cameroun entre différentes catégories de la population?
Bon, mais...
À la suite notamment des déclarations du ministre, du ministre de la Justice.
Délégué.
La RPA, c'est la même situation. Nous sommes préoccupés puisque c'est à partir du Cameroun que la RCA s'approvisionne. Vous savez que c'est un pays enclavé. Ça nous préoccupe d'autant que nous pensons que le Cameroun a intérêt à pouvoir régler politiquement cette crise par le dialogue et un dialogue franc pour remettre en confiance cette population qui milite pour la partition du pays.
Oui.
Donc vous dites qu'il y a des similitudes, excusez-moi Francis, entre ce qui se passe au Cameroun et votre pays, la Centrafrique?
Oui, il y a une similitude. Et il y a une similitude dans la mesure où nous avons les groupes armés, les rebelles et mercenaires, qui militent pour la partition du pays, afin de mieux contrôler, parce que, vous savez, les rebelles et les mercenaires, là, sont utilisés par l'extérieur. Et eux, ils sont manipulés à outrance. Surtout que, en majeure partie, la coalition Séléka n'est composée que des rebelles étrangers qui ont gonflé les rangs de ces mercenaires-là.
D'accord, alors, on parlera de la
vous allez revenir, vous allez revenir à la situation centrafricaine un peu plus tard dans la deuxième Francis. Partie de l'émission.
Nous ravitaillons durant notre crise à partir du Cameroun.
Bien sûr.
D'accord.
On a réussi à sécuriser le corridor entre Bangui et la frontière pour nous permettre de continuer à nous approvisionner. Mais quand on nous dit qu'au Cameroun, ça ne marche pas, et surtout que le Cameroun héberge la majeure partie de nos réfugiés, les réfugiés centrafricains.
Donc vous êtes inquiet et vous suivez ce qui se passe au Cameroun.
Bien
merci
entendu.
Francis, avec notre invité.
Maître Akeremouna, donc j'évoquais la situation de Moïse Kamto, pour qui vous avez appelé à voter en octobre dernier pour la présidentielle. Alors, on a remarqué que, voilà, après son arrestation le 28 janvier dernier, vous étiez deux, vous-même et Joshua aussi, du SDF, à avoir appelé à la libération immédiate de Moïse Kamto, un appel qui avait d'ailleurs été relayé par Amnesty International. Comment vous expliquez que cet appel, qui était le vôtre, n'ait pas été plus massivement relayé par la classe politique camerounaise ?
Je pense que bien à part de ceux qui sont au pouvoir, la plupart des classes politiques savent qu'on a un problème réel, n'est-ce pas, quels sont les droits civiques des partis de l'opposition et des autres citoyens. Et beaucoup de gens demandent, n'est-ce pas, de la libération. D'ailleurs, je pense que même le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, d'ailleurs même de la France, ont demandé. Donc, ce côté-là, personne, à mon avis, tous ceux qui devaient parler ont parlé devant la libération. Mais écoute, connaissant notre pays, c'est parce qu'il va les ébranler. Donc,
mais excusez-moi, Maître Akere, certaines sources indiquent que c'est le président du MRC, Maurice Kamto, qui refuse d'être libéré parce qu'il exige aussi la libération des personnes avec lesquelles il a été interpellé à l'issue de la marche de samedi dernier.
Ah, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai été lui rendre visite à un ami et collègue, il est avocat aussi, Maurice Kamto. Il lui dit bonjour, je crois que c'était dimanche dernier. Donc, j'ai lui aussi le Val Serro, d'ailleurs, qui va solliciter que je me constitue pour lui comme avocat. Et j'ai dit bonjour à Alain Foguet. Donc, je ne sais pas d'où sort cela, de toutes les façons. Je ne sais pas comment on peut se maintenir dans un endroit sur lequel vous n'avez aucune emprise contre le désir de ceux qui y sont. Donc, je pense que. Je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, j'ai aussi lu, mais je n'y attache aucune importance parce qu'il ne me l'a pas dit quand j'y étais. Donc, voilà.
Vous l'avez...
La seule chose, c'est qu'on ne lui avait pas notifié, n'est-ce pas, là, il m'a dit qu'il était en détention habitative, et on ne lui avait pas notifié cet acte. Qui est quand même ahurissant.
Alors, justement, en l'absence...
On puisse vous arrêter, ça vous dit pourquoi on vous arrête.
Alors, où en est-on aujourd'hui, justement? Quel est son statut judiciaire, précisément, aujourd'hui?
J'entends qu'il est sous détention administrative.
Oui.
Et qu'est-ce... On va en arrêter...
Les greffes lui ont été notifiées clairement aujourd'hui ?
Donc, il a été notifié, je pense, il y a 2 jours, je pense, après 11 jours de détention, parce que Valzero aussi, l'avocat qui suit l'affaire étroitement, m'a dit qu'il avait été notifié il y a 2 jours.
Alors, Maître Akeremouna, on sait que Maurice Kamto et certains des membres de son état-major, vous avez parlé d'Alain Foguet tout à l'heure, ou encore Michel, Maître Michel Doki, ont été arrêtés à l'issue des manifestations qui ont eu lieu à Yaoundé, manifestations pour contester la réélection de M. Biya en octobre dernier. Mais est-ce que vous comprenez que certains considèrent cela comme de l'agitation politique injustifiée, contre-productive même, et que le MRC et ses alliés peut-être gagneraient à préparer les prochaines législatives ou même batailler pour la réforme des lois électorales?
Madame donc il n'est pas arrêté à ma connaissance pour le moment.
Oui, tout à fait. Mais elle a reçu une balle, d'après certains membres du MRC.
Manifester est un droit consacré dans la Constitution. Et même protégé par la loi, n'est-ce pas, qui définit comment on peut manifester. Alors, là-dedans, l'État a violé tout ce qu'il y a comme texte en ce qui concerne qu'est-ce qui veut venir à la répression, si on veut tirer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, tout ça a été violé par le gouvernement. Donc, dans ce sens-là, qu'il faut affirmer d'abord. Donc, appliquer la loi et bénéficier des protections constitutionnelles ne relève pas d'une stratégie politique. CPR est plus sorti seulement pour les législatives, encore que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je pense qu'il est impératif et important. Et tout, que ce soit l'ONU ou les autres partenaires, disent qu'on a un problème au Cameroun parce que, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, de manifester qui est dans la Constitution est quelque chose de comme une loterie. Vous faites votre lettre, on vous accepte, on vous rejette. Donc je pense que c'est ça ce qui est fondamental. Non, on n'est pas un parti politique, on est un mouvement citoyen. Ça veut dire que quoi? Alors, on n'a pas le droit de manifester puisqu'on n'a pas eu un mandat. Je pense que c'est ça le problème. C'est une répression qu'on a dans notre pays qui est le résultat d'un mouvement frileux. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Quand on gagne 14%, on devait être confiant qu'on a tout le peuple avec soi. Et là, on a des gens qui sont frileux et très envie d'attirer sur la gâchette.
Alors, vous n'avez pas répondu précisément à la question que vous posez, Liliane, il y a quelques instants. Je vais vous la poser autrement, Maître Akeremouna, parce que ces événements ont ravivé ce que une partie de l'opinion au Cameroun considère comme un contentieux post-électoral non encore soldé. Est-ce que vous considérez vous-même que le contentieux post-électoral est toujours intact?
Écoutez, vous posez la question à un avocat.
Oui.
Et dès que le Conseil se prononcer sur des élections, quel que soit le contexte, à ce qui concerne le contentieux électoral est clos.
D'accord.
Et je l'avais dit aussi
à Maurice Kamto
et aux autres candidats. Oui. Que, à ce qui me concerne, n'est-ce pas, j'avais appelé à voter pour lui, mais puisque le Conseil a pris position, c'est terminé. Et je pense qu'il faut faire le possible.
Donc vous ne comprenez pas que le MRC organise encore des manifestations pour exiger... Oui, allez-y, pour exiger... Pour dénoncer la...
En 92, dans les revendications, et dans la même position, tant que l'instance qui est compétente, n'est-ce pas, pour rendre la décision désignant celui qui est président, il préfère, il a la fonction. Ainsi, mon conseil, c'est terminé.
Donc vous ne comprenez pas que le MRC organise des manifestations encore aujourd'hui pour exiger le rétablissement de ce qu'il appelle la vérité des urnes?
Mais ça, c'est une tactique du MRC sur laquelle je ne peux pas répondre.
Mais que vous n'approuvez pas. Mais que vous n'approuvez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec cette tactique du MRC.
Pardon?
Vous n'êtes pas d'accord avec cette tactique du MRC que vous avez soutenue?
Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, je ne suis pas du MRC, moi. Je pense qu'on a un problème qui concerne le fait que l'espace est en train de se rétrécir à ce qui concerne l'espace de droit civique. Et contre ça, sûr qu'il faut manifester. Et je suis pour le fait que notre loi électorale est une moquerie pure et simple.
Merci beaucoup.
Qui est conçu pour faire gagner, n'est-ce pas, le parti pour moi.
Merci.
Merci.
Le débat Africa BBC.
Et notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Yaoundé, Akere Mouna, maître Akere Mouna, président du mouvement NAO, ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. Notre confrère invité depuis Bangui, au téléphone, Mathurin Moumé, directeur de la publication du journal Le Confident. Le Confident, édité en République centrafricaine. On va parler justement de la Centrafrique à présent avec ce nouvel accord de paix à l'issue d'une dizaine de jours de pourparlers à Khartoum au Soudan. Les représentants du gouvernement centrafricain et de 14 groupes armés sont parvenus à s'entendre sur un projet d'accord de paix paraffé par les différents protagonistes le 5 février dernier sous l'égide de l'Union africaine. Cet accord a été signé à Bangui ce mercredi lors d'une cérémonie solennelle. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a estimé que, je cite, « ce jour est un moment historique qui consacre l'aboutissement de presque 3 années d'efforts ». Fin de citation, il a quand même souligné que le premier effet de cet accord est la cessation de toute violence contre les civils. Fin de citation, que faut-il attendre donc de cet accord? Le 8e, il faut le dire, depuis le déclenchement de la crise sécuritaire qui mine le pays depuis 5 ans. On va écouter un élément sonore avec vous, BBC Afrique à Dakar, pour introduire ce débat.
Oui, Francis, c'est un accord de paix négocié et arraché par l'Union africaine entre les 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain a donc été signé mercredi à Bangui en l'absence de principaux leaders rebelles tels que Noureddine Adam ou encore Ali Darassa, deux principaux mouvements sélicats très actifs sur le terrain. Les deux étaient absents. À Bangui, les précisions du correspondant de BBC Afrique, Max Alaroum.
Les acteurs se félicitent de ce que le traité vise la réconciliation, ce qui implique tacitement une mise sous silence de la justice pour privilégier cette réconciliation, à en croire l'imam Kobine Layama, l'un des participants aussi pour parler de Khartoum.
Nous, centrafricains, devons nous approprier de cet accord. Nous sommes tous concernés. La fraternité, le vivre ensemble, ça c'est le catalyseur. Parce que tout ce qui entoure ces choses-là, s'il n'y a pas de réconciliation, rien ne pourra être mis en œuvre.
Ils l'ont soutenu par le ministre Herbert Gontran-Jono Abba, ministre de l'Hydraulique et l'un des leaders des groupes armés au dialogue, pour qui le revenu pour que le Centrafricain tire le dividende de la paix.
Les Centrafricaines et les Centrafricains attendent les dividendes de cet accord. C'est quoi les dividendes à ce niveau? C'est la paix. La paix doit commencer à régner automatiquement.
Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, promet de jouer la carte de l'inclusion et de la justice.
Toutes les parties au dialogue de Khartoum se soit convenu de réaffirmer le principe de lutte contre l'impunité pour mettre en avant le triptyque justice, réparation et réconciliation. Sans attendre, nous allons nous atteler à la mise en place d'une commission inclusive qui sera le dispositif approprié pour offrir à nos compatriotes les instruments d'une justice qui promet la vérité, la réhabilitation des victimes et la réconciliation nationale.
Max Alaroum, BBC Afrique, Bangui.
Merci beaucoup. Mathurin Moumé, vous êtes à Bangui. Alors, on va tout de suite parler de la question de l'amnistie. Les groupes armés avaient posé cette question comme un préalable à tout accord. Et cette question n'est pas inscrite, on le sait, dans ce document. Alors, est-ce qu'il faut penser pour autant que les membres de ces groupes armés ont posé leur signature sans avoir obtenu la moindre garantie d'échapper à l'action de la justice?
La justice nationale, oui. Les instances judiciaires nationales, oui. Mais la CPI et la Cour pénale spéciale ne sont pas liées par l'amnistie ou la suspension des poursuites judiciaires. Il y a plusieurs revendications.
Oui.
Il y a d'abord le problème de l'amnistie. Il y a la primature que les groupes armés voulaient
exiger.
Que ça soit dirigé par l'un de leurs représentants.
C'est ça.
Et
un gouvernement incluant les membres de ces groupes armés.
Revendication. Voilà. Mais nous disons que les recommandations du Forum national de Bangui ont été claires, qui sont même transcrites dans la loi fondamentale de la République centrafricaine du 30 mars 2016. Le forum de Bangui a eu lieu en 2015. Après des consultations dans les 16 préfectures de la République centrafricaine, les attentes des 16 préfectures ont été remontées pour que le forum de Bangui puisse en faire recommandations.
En somme, Mathurin, vous êtes en train de dire que ce qui est contenu dans l'accord qui a été finalement rendu public est en conformité avec ce qui avait été décidé sur le forum pour ce qui est des poursuites éventuelles contre les responsables d'exactions.
Oui.
Ou le partage de pouvoir.
Les représentants du gouvernement qui sont partis ont valablement défendu la volonté populaire qui a été transcrite dans la loi fondamentale.
Oui, mais finalement, à vous écouter, finalement, la Centrafrique, avec sa justice nationale, pourrait leur accorder donc l'amnistie, leur accorde l'amnistie de fait. Cela dit, ça n'engage pas la Cour pénale internationale ou la Cour de justice spéciale qui a été mise en place en Centrafrique, qui pourrait donc les poursuivre.
Mais normalement, parce que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité relèvent de la compétence de ces deux instances.
Oui.
D'accord.
Bon, c'est vrai que l'accord de Khartoum, l'accord de paix de Khartoum, on a suspendu la poursuite judiciaire, mais sur le plan local. Et on va instaurer une commission justice, vérité et réparation.
Oui, c'est-à-dire que sur la question l'amnistie et des poursuites, on a confié à une commission inclusive qui va donc décider, qui va qualifier et proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Mais est-ce que ce qui a été décidé, avant d'écouter notre invité, Maître Akeremouna, est-ce que ce qui a été décidé est en phase avec les attentes des populations centrafricaines, Mathurin?
Mais les Centrafricains ont toujours milité à ce que le dialogue de Khartoum puisse s'inscrire, le dialogue de l'UIA, l'Union africaine, puisse s'inscrire dans le respect de la Constitution et des recommandations du Forum national de Bangui. Donc c'est ce qui a été fait.
Dont les populations adhèrent à cet accord de paix.
Oui, la population adhère, mais émet des réserves quant à l'applicabilité. Quelles sont les sanctions que les gens qui transgresseront les dispositions de cet accord-là vont écoper?
Justement, à ce sujet, Francis, excusez-moi, Mathurin, on va revenir à vous pour terminer ce débat. Excusez-moi, Mathurin, on va écouter justement à ce propos l'aspect de l'application de cet accord, notre invité. Maître Akeremouna, dans l'élément qu'on a écouté tout à l'heure, il y a beaucoup de volonté affichée et exprimée par les acteurs pour l'application de cet accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut surveiller scrupuleusement afin de faire de ce huitième accord, Mathurin le disait, le dernier en Centrafrique?
Et je pense qu'il faudrait aller un peu en amont. Je pense que, en ce qui me concerne, je pense que les élections dernières sont un peu précipitées. Voyez-vous, on pensait, surtout les Français, je dois dire, que l'élection allait, n'est-ce pas, ramener les choses à l'ordre. Ça n'a pas donné. Et je crains que cet accord qu'on aura fait, qui s'est conclu à Khartoum, risque encore de poser des problèmes. Vous avez vous-même soulevé le problème d'amnistie. Vous savez qu'en face du problème d'amnistie, c'est le problème, n'est-ce pas, de la justice pour les victimes. C'est ça qui bloque. Et vous savez comme moi qu'en même temps qu'il était à Khartoum, pour cette réunion, on avait déjà, n'est-ce pas, des Français qui étaient invités, n'est-ce pas, pour assister, pour bombarder les gens qui venaient du sud de Libye, donc du nord du Tchad. Donc c'est assez complexe. Donc est-ce que on a la masse critique, c'est quoi, 80% qui permet de pouvoir imposer cet accord aux autres, semble-t-il être, n'est-ce pas, une question à laquelle il faudra répondre.
Une question compliquée.
Mais chaque fois qu'on en arrive là,
oui.
Le problème politique entre dedans, parce qu'on rapidement on va à l'élection, et puis on a des X minutes à gagner, et puis les vieilles animosités refont surface. Donc, je pense qu'il faudrait s'assurer que toutes les attentes, même des minorités, soient prises en compte. Parce que si on ne le fait pas, on va retomber, n'est-ce pas, on va recommencer avec les mêmes problèmes.
Alors, il y a une attente concrète qu'il faudrait observer, il faut voir si elle sera satisfaite assez rapidement. Mais on va peut-être demander à Mathurin Momé. Mathurin Momé, on le sait, hein, ces groupes armés occupent aujourd'hui près de 80% du territoire centrafricain. Est-ce qu'on peut imaginer avec cet accord que ces groupes se retirent immédiatement des zones occupées afin que puisse être restaurée l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire? Là, ça serait un effet concret d'un accord efficace et pertinent.
Bon, écoutez, là, on nous dit que ce qui différencie les particularités de cet accord-là viennent de la signature, de sa signature par l'ONU, l'UA, la CAC et les autres pays, puisque vous savez que le dialogue est une étape prévue par la feuille de route qui a été d'une manière unilatérale élaborée par l'Union africaine qui nous a été imposée, même l'initiative de la paix. Les Centrafricains en général et les victimes n'y ont pas été associés. Et c'est un discours exclusif. C'est-à-dire qu'on a écarté même ceux-là, les acteurs de la paix, les acteurs qui luttent pour la paix, dedans. Il n'y a que le gouvernement en face des groupes armés.
Oui, donc, à la question de Francis Pouchuté.
Oui. Vous n'avez pas répondu à ma question.
Oui, je vous écoute.
Un effet immédiat qu'on pourrait attendre de cet accord serait, par exemple, que les groupes armés qui occupent 80% du territoire centrafricain se retirent de ces zones occupées et que l'État rétablisse son autorité sur l'ensemble du territoire centrafricain. Est-ce que cette hypothèse, est-ce qu'on peut s'attendre, je dirais, à court terme, à ce que se produise cet effet-là?
Bon, nous, les centrafricains même émettent du doute par rapport à l'effet immédiat de cet accord, dans la mesure où, dans la feuille de route, on a précisé que pour la réussite du dialogue, il fallait arrêter les hostilités. Mais on a vu à Lindao que les groupes armés ont attaqué. Il n'y a jamais eu de sanctions comme c'est prévu dans les dispositions de la feuille de route.
D'accord.
Les Centrafricains pensaient, à juste titre, qu'il fallait arrêter ces hostilités pour y aller. Mais la communauté internationale qui prétend accompagner la République centrafricaine n'a rien fait, n'a même pas sanctionné les dirigeants.
Merci beaucoup, Mathurin.
Qui doit garantir cette histoire? Est-ce que c'est le gouvernement qu'on a dépouillé parce que le gouvernement n'a pas son armée? Parce qu'il y a l'embargo qui pèse toujours sur le truc. Malgré la levée partielle, il y a des obstacles qui se font.
Merci.
Les pays comme la Russie.
Merci. Les forces, les FACA, les forces armées centrafricaines qui n'ont toujours pas, voilà, qui ne sont pas toujours réinstaurées. Et en somme, Mathurin, pour répondre à la question, Francis, vous êtes très sceptique et ne pensez pas que la guerre sera un mauvais souvenir après la signature de cet accord, comme on peut l'espérer. Mais Francis, peut-être mentionner aussi que l'Union africaine et les Nations unies ont prévu des sanctions pour les personnes qui violeraient cet accord. Sans transition, rapidement, le sujet sur la Côte d'Ivoire. Francis, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, récemment acquitté de crimes contre l'humanité, est à Bruxelles. Les partisans de l'ex-président, de l'ex-président ivoirien, qui se trouve donc à Bruxelles, vont encore devoir attendre pour éventuellement voir leur ancien président en Côte d'Ivoire. Sa libération conditionnelle l'empêche en effet pour l'instant de sortir de la Belgique et de s'exprimer publiquement. Maître Akeremouna, vous qui êtes juriste et connaissez bien les couloirs de la justice internationale, expliquez-nous pourquoi une personne acquittée et libérée n'est pas libre de ces mouvements. À Abidjan, certains partisans et militants de l'ex-président, interrogés par la BBC par exemple, ne comprennent pas cela et affirment qu'il n'y a que des raisons politiques pour motiver de telles restrictions.
Et bien, ceux qui suivent attentivement ce qui se passe au niveau de ces pays, savent que chaque fois que ces problèmes juridiques butent contre un problème politique de taille, n'est-ce pas, bien, écoute, la politique l'emporte. Que ce soit dans le cas de Uhuru Kenyatta, que ce soit le cas de Bemba, mais on le voit maintenant. Parce qu'il n'y a pas un sens à ce que vous soyez, n'est-ce pas, acquittés, et puis après, on vous met dans ces conditions. On ne peut que regarder la situation politique qu'il y a maintenant en Côte d'Ivoire.
Donc, excusez-moi, mais pour qu'on soit très clair, donc vous êtes en train de dire que les restrictions sont motivées, ce sont des raisons politiques, ce n'est pas des raisons judiciaires qui font qu'il y a cette restriction et que la situation politique un peu tendue en Côte d'Ivoire actuellement pourrait être à l'origine de ces restrictions, de ces restrictions imposées à M. Gbagbo?
Moi, je dis que je ne vois pas comment cette restriction peut être justifiée en droit. Et quand on écarte cette hypothèse, il n'y a que des raisons politiques. Quand on regarde la situation post-électorale en Côte d'Ivoire, les alliances qui se créent, et la situation, n'est-ce pas, qui nous renvoie à ce qu'il y avait avant, et quand vous écoutez les Ivoiriens eux-mêmes parler, ce qui se dit dans les rues maintenant, on craint que, n'est-ce pas, il y avait ce désir, n'est-ce pas, il y a derrière tout ça, quelque part, la même politique. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je ne vois pas un droit pourquoi, n'est-ce pas, il faudrait, n'est-ce pas, restreindre davantage, n'est-ce pas, les libertés de Gbagbo.
Alors, pour préciser bien votre pensée, Maître Akeremouna, est-ce que de mémoire d'avocat, et c'est l'avocat que je m'adresse, hein, on a déjà connu un cas particulier où, ce cas en tout cas plutôt rare, où un prévenu est acquitté, libéré, mais soumis aux règles et contraintes de ce qui ressemble à une liberté provisoire. De mémoire d'avocat.
Dans une instance comme ça, non. Domestiquement, c'est sûr, puisqu'il y a, n'est-ce pas, toujours un problème politique. Quand vous aurez une justice qui est indépendante, et qui peut libérer quelqu'un, et qui par la suite, pour des problèmes politiques, n'est-ce pas, l'État prenne une autre position. Donc, c'est un peu cela.
Donc, vous dites très clairement que la CPI fait de la politique et non pas seulement du droit.
Dans le cas de Guantanamo et des États-Unis, il y a des gens qui ont été libérés, mais qui ne sont pas partis de Guantanamo parce qu'ils étaient encore, n'est-ce pas, retenu par les Américains, donc c'est pas quelque chose, c'est toujours un problème politique. Et moi, je pense que dans le cas de Gbagbo, je peux retrouver une raison politique. Et voilà.
Donc, la tension politique actuelle, le climat politique actuel tendu avec la présidentielle 2020, la démission de Guillaume Soro, la présidente de l'Assemblée nationale, ce climat n'est peut-être pas favorable au retour de Laurent Gbagbo, selon vous?
Je ne pense pas du tout, et n'est-ce pas, et le divorce entre Bédier et Ouattara aussi. Donc je pense que on est en train de repartir vers les démons d'avant.
D'accord.
Un rapide commentaire de Mathurin Momé sur le cas Laurent Gbagbo et ensuite on va écouter nos auditeurs sur Internet. Mathurin Momé, rapidement, un commentaire sur le dossier Laurent Gbagbo.
Bon, on ne peut que se réjouir du fait que la CPI a rectifié Ces erreurs.
Bon.
Pour libérer cet Africain qui a quand même servi son pays à un très haut niveau.
Merci.
Nous ne pouvons qu'apprécier cette démarche-là.
Merci,
Mathieu. Les commentaires fusent de partout, c'est irritant.
Mais en tout cas, pour l'instant, les partisans de Laurent Gbagbo estiment que voilà, il n'est pas tout à fait libéré, puisqu'il n'a pas encore le droit de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Francis,
sans transition.
C'est un moment que vous affectionnez beaucoup. On va demander à notre invité de tendre l'oreille, Maître Akeré, puisque vous aurez à réagir aux
bien
questions
sûr
et commentaires de nos auditeurs, recueillis. Présentés
et livrés par Richard Thierry Mouekidina.
Mouekidina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Cameroun pour Roosevelt, Inoua, le vivre ensemble n'est qu'un slogan vide de sens au pays des lions indomptables. Richard Bayan pour sa part estime que ce péril sur le vivre ensemble tient son explication au maintien au pouvoir et ce à vie de certains chefs d'État sur le continent. Et quant à Joseph Goumou, il se demande si l'opposition ne peut-elle pas aider le président Paul Biya à résoudre la crise anglophone. Sur la Centrafrique, Charles Bazema aimerait savoir pourquoi l'accord de paix n'a pas vu la participation des anciens chefs de l'État. Et pour Junior Bongo, pourquoi tant de mystères sur un accord de paix? Et enfin, sur la Côte d'Ivoire, Apache Boyotti ne comprend toujours pas les conditions de libération de Laurent Gbagbo et selon Sangaré Albert, la Cour pénale internationale n'a qu'à envoyer Gbagbo et Blé Goudé dans un autre lieu de détention car selon lui, jusqu'ici, ils ne sont pas libres. Merci à David Chibangu, Ao Ibrahima et Oumar Daoud Seyd qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à vous.
Merci. Bon week-end à vous aussi, Richard, Thierry, Mbouik et Gina. Une conclusion générale avec vous, Kérémouna. C'est la tradition de cette émission. Peut-être qu'il y a une ou deux questions qui vous ont interpellé.
Je n'ai pas bien compris la première partie de bon. Ta question. Est-ce que j'ai retenu
on peut demander,
la
on
première
peut
question, dire, c'est sur le vivre ensemble.
Comment est-ce que le président peut-elle aider à
régler la crise anglophone.
Oui, tout à fait. Exemple. La question de Joseph Ngoumou.
Justement, moi je pense que l'opposition peut bien aider et il faudrait que l'opposition comprenne que l'avenir du Cameroun dépend maintenant de la solution de la crise anglophone. Parce que le coût financier, aussi de vivre ensemble, est mis en péril. Et on a un pays où il y a de ses 60 ans d'indépendance, et que c'est mieux de dire les régions anglophones ou non, mais il y a eu un tel mouvement des populations que ce n'est pas aussi clair que ça. Donc je pense que, en ce qui nous concerne, tout ce qu'il y a comme élections et autres devait être suspendu. On devait se retrouver dans un dialogue complètement inclusif, repenser la République, la forme de l'État, mettre en place des institutions qui sont, n'est-ce pas,
consensuelles,
qui émanent justement consensuelles, et après cela, on va repartir.
Merci.
Des gens, là on est dans des pansements chaque fois qu'il y a, et puis on réagit à des situations, et puis chaque fois, vers un chaos.
Et la longévité de Biya, responsable de la crise du vivre ensemble, selon vous, en un mot, question de Richard Bayan.
En un mot, s'il vous plaît.
Moi, je pense que pour continuer, il faudrait réfléchir différemment. Donc, s'il faut réfléchir différemment, il faut de dirigeants. C'est si simple que ça.
Merci, Akeremouna. Maître Akeremouna, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cette édition des débats BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Akeremouna, président du mouvement NOW, vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bangui, Mathurin Momé, directeur de la publication du journal Le Confident, édité en Centrafrique. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard. Chargé de production, Richard Thierry Mbou et Kijina. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous et bon week-end à vous, Liliane.
Bon week-end à vous, Francis Laloupo, et à tous nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir.